Les podcasts d'AFDS.TV. Les suppléments d'Aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Red Carpet, Sophie Sourdiocourt, Alexandre Marlier.
Bonjour à tous, Série Mania 2019, ça continue et si les jours et les projections se suivent, ils ne se ressemblent pourtant pas. Nous vous proposons donc un panorama de ce que nous y avons vu durant les dernières heures. Et on commence d'abord avec deux formats courts. Premièrement, M, série argentine de 8 fois 10 minutes, racontant le road trip d'un couple amoureux à travers la Patagonie à la recherche du père de l'un d'eux, évaporé dans la nature bien des années plus tôt. Accompagné par Alejandro, le dernier à avoir vu le papa vivant, il s'enfonce dans une forêt à la merci de mille dangers. Des images superbes, des moments de suspense angoissants, des acteurs crédibles, M est vraiment un thriller à voir, avec comme petit bémol des situations un peu téléphonées et des réactions de personnages parfois aberrantes. Mais on passe malgré tout un très très bon moment.
Any human action? There's an underlying darkness to missing.
So he's either still there or that's where he died.
This isn't healthy.
Do you know this man?
En este lugar fue la última vez que lo vi.
This whole thing is insane.
Where is it coming from?
We're never gonna find him.
Get off with eso.
We should go back.
If we go back now, you'll never stop wondering what would have happened if we had stayed.
You have to learn to see the still mud at the bottom of the crystal lake.
Deuxième format court présenté qu'on a eu l'occasion de visionner, Fourchette, surnom donné à Sarah, jeune auteur qui décide de mettre fin à sa relation avec Samuel après plusieurs années de vie commune et alors qu'elle éprouve toujours des sentiments pour lui. Créée et interprétée par Sarah Maud Beauchesne, cette dramédie québécoise douce amère de 10 épisodes de 10 minutes fait de nombreux allers-retours entre la solitude de l'héroïne et les années de bonheur avec son compagnon. Parfois un peu tire-larme, un peu auto-centrée, la série est pourtant rafraîchissante et pose certaines questions sur la solitude.
Avant, ma vie était simple.
Je pense quand même que c'est plus facile d'affronter la vie à deux.
Puis mettons là, que ton chum te crisse le même matin. Tu penses pas que ça va te trouver forte en hostie de vivre ta vie comme une grande sans ton homme pour te rassurer?
Tu me cherchais?
Ouais, t'étais où?
La grande fumeuse,
ce gars-là aurait pu me fabriquer des enfants super tannants, mais super wise en même temps.
Un, deux, trois, go.
Il me donnait le goût d'être plus souvent fine que pas fine, de rire fort tout le temps, de m'aimer tout nu. Avec lui, j'avais peur de rien, sauf peut-être de le perdre. Grâce à toi, je me trouve belle de profil, puis tu le sais que c'est un exploit, fac. Tu te mérites un roman d'amour.
T'en fais-tu ta vie à l'ensemble?
J'étais heureuse, je pense.
T'étais vraiment en contrôle de ton vagin.
Oh, malheureux!
Sarah, je suis plus responsable de ton bonheur, OK?
Mais je l'ai laissé, fuck.
Exit est une série norvégienne basée sur les témoignages de quatre traders d'Oslo qui sont devenus multimillionnaires avant leurs 30 ans. Dans ces témoignages, ils décrivaient eux-mêmes les choses peu recommandables qu'ils avaient faites jusque-là. Lorsque la série leur a été présentée, ils n'ont fait de réflexion que sur des détails comme la valeur des montres au poignet de leurs personnages qui n'avaient pas l'air assez chères. Et pourtant, il y avait d'autres choses à dire tant Exit dépeint de façon brute la face la plus sombre de ces Golden Boys. On rencontre d'abord Adam, 39 ans, marié et dont la femme nourrit depuis des années un désir d'enfant et désespère de tomber enceinte. Il la soutient en apparence, mais omet de lui dire qu'il a subi une vasectomie quelque temps après leur rencontre. Comme cela ne lui suffit pas, il l'a fait culpabiliser en insinuant que son problème serait psychosomatique. Un homme charmant. Un autre connaît à peine le nom de ses propres enfants. Et bien sûr, drogue, alcool et prostituées font partie de leur rituel quotidien. Ils en sont à un tel niveau qu'il semble que plus rien ne les atteint, qu'ils n'ont plus de notion du bien et du mal, et que tout les pousse à aller plus loin dans l'excès et l'adrénaline pour échapper à la pression engendrée par leur métier et leurs mensonges. Cette création, de par les excès qu'elle décrit et son impudeur, met dans le mille et m'a pratiquement fait quitter la salle de projection tant ces personnages me dégoûtaient. Bien joué.
Toujours dans le panorama international était présentée la série espagnole Hierro, coproduite par Arte. L'action se déroule à El Hierro, l'île la plus éloignée de l'archipel des Canaries, le jour de l'arrivée de la nouvelle juge Candela. Un jeune homme est retrouvé mort dans une grotte sous-marine alors qu'il était censé se marier. La petite communauté locale est chamboulée par cette mort et les méthodes expéditives de la juge font monter le sentiment de méfiance au sein de la population, d'autant que le suspect principal se trouve être le père de la mariée, riche patron de bananeraie, qui trempe également dans des affaires louches. En plus d'une photographie magistrale, d'un générique qui mélange l'humain, le végétal et le minéral à merveille, d'un jeu d'acteur en tout point irréprochable, Hierro propose une intrigue qui tient largement la route et en haleine. Malheureusement pour elle, Broadchurch est déjà passé par là et la comparaison est inévitable, mais ne boudons pas notre plaisir face à une série particulièrement bien ficelée.
Tenemos mucho en común.
Usted y yo.
Yo también sé lo que es llegar a esta isla y no caerle bien a nadie. ¿Tú crees que yo maté a Fran?
¿Lo hizo? ¿Viste tú?
Eres traficante.
¿Está usted detenido?
Sé muy bien la fama que tengo en la isla.
¿De verdad que no sabes quién soy? Soy la jueza.
¿Usted tiene hijos, señoría? No haría cualquier cosa por evitarle un dolor. Deberías cambiar de actitud.
Estoy acostumbrada a los problemas. Vamos a registrar el puerto.
Sangre.
¿Es humana? ¿Fran estaba preocupado por algo?
Necesito sacar algo mañana. En Tenerife no me gusta esperar. Usted y yo deberíamos colaborar. Somos almas gemelas. ¿Pueden quitarme esto?
¿Sabes lo que me da más miedo? Que el asesino pueda ser uno de nosotros.
Busque al que está mintiendo y va a encontrar al asesino.
Comme l'an dernier, la Russie est également en compétition cette année avec Identification. À Moscou, des immigrés illégaux du Kirghizistan recueillent une jeune orpheline qui va épouser le plus jeune fils de la famille, Aman. Alors qu'un drame se déroule dans les toilettes glauques de la salle des fêtes le jour des noces, la jeune orpheline se révèle ne pas être celle qu'elle prétend être. Écoutez d'ailleurs Lena Tronina, l'actrice qui interprète le rôle principal, sur sa manière de travailler pour la difficile scène de l'interrogatoire.
On n'a pas travaillé, c'était pas écrit. En fait, je crois que si on est vraiment relié à ce qu'on est en train de faire, si on est vraiment connecté, et puis j'étais connectée à Fabienne, j'étais connectée à Nikki, ben en fait, c'est naturel, c'est ça la magie, c'est d'être vraiment dedans, et c'est ce qui s'appelle le cinéma.
Difficile de se faire une opinion précise sur Identification, car seul un épisode a été montré étant donné que la suite n'est pas encore terminée et le souci est que l'épisode pilote met en place de nombreuses choses mais qu'il est quasi impossible de savoir la direction que va prendre la série par la suite, tant les possibilités sont nombreuses. Ceci étant, l'immersion dans une communauté peu connue est assez intrigante, ne fût-ce que par les rites qui sont présentés. L'esthétique glaciale voire brutale de l'ensemble impose une atmosphère toujours pesante qui n'autorise aucune reprise de souffle au spectateur, tant le récit est haletant, mais il faudrait en voir plus pour savoir vraiment vers quoi on se dirige.
Waouh, ça y est, voilà ma première vraie extase du festival, Lambs of God. Une mini-série australienne en 4 épisodes qui réunit 3 actrices formidables, Anne Dow, tante Lydia dans La Servante Écarlate, Essie Davis, qui est Miss Fisher, et Jessica Barden, qui crevait déjà l'écran dans The End of the Fucking World. Trois sœurs de la congrégation de Sainte Agnès vivent en autarcie dans un monastère isolé sur une presqu'île. Elles cultivent des plantes, se divertissent avec des contes tels Grimm ou Andersen en changeant la faim, élèvent des moutons et filent leur laine, et à l'occasion en sacrifient un et boivent son sang en guise d'eucharistie. C'est à ce moment qu'arrive un jeune prêtre, envoyé en repérage par l'évêché dans le but de vendre leur monastère en vue d'une transformation en hôtel de luxe. Dès son arrivée, il bouleverse l'équilibre des trois femmes et essaie de s'imposer en mâle alpha et d'imposer ses règles. Découvrant les intentions du père Ignatius, les nonnes décident de le séquestrer pour le faire changer d'avis. Tout dégénère et l'esprit de misérie n'est pas très loin. Alors ça peut paraître plombant ou très noir, mais des touches d'humour viennent souvent alléger la situation, ce qui rend le visionnage de la série jouissif. La série est difficile à classer. La scénariste Sarah Lambert la décrit comme un conte gothique. Les contes qu'elle se raconte entre elles sont d'ailleurs très importants dans la série. La scénariste a voulu qu'ils rejoignent le vécu de celle qui le raconte, en fonction de ce qu'elle change dans la fin des contes classiques parfois cruels. L'énergie que ces trois femmes vont mettre pour se défaire de cet homme ou le faire changer d'avis révèle, de manière extrême il est vrai, leur refus du patriarcat et la force viscérale qui unit ces trois femmes. Mais sa venue va aussi réveiller certains désirs et des traumatismes du passé dont on ignore tout. Pourquoi sont-elles là? Qu'est-il arrivé aux autres religieuses du monastère? Tant de questions dont on a envie de découvrir les réponses dans les prochains épisodes. Bon, la série ayant été projetée en avant-première mondiale à Sérimania, il va falloir être très patient. Dès les premières images, je donnais des coups de coude à Alex en lui disant « Regarde, regarde !» alors que les premières vues aériennes d'une presqu'île défilaient sur l'écran, puis qu'une araignée se baladait en gros plan sur son fil. Déjà, une grâce se dégageait de ces quelques secondes. J'ai été totalement retournée par la qualité de l'écriture, le jeu sans faute des actrices, la cinématographie et l'art parfaitement maîtrisé de nous emmener on ne sait pas où, mais avec bonheur.
Sérimania, ce sont également des rencontres, des masterclass et des entretiens. Nous avons ainsi pu assister à une conférence du chercheur Benjamin Campion, auteur du livre Le concept HBO, élever la télévision au rang d'art, et notamment tenter de comprendre le slogan de la chaîne It's not TV, it's HBO. Mais justement, si ce n'est pas de la TV, qu'est-ce donc ? L'occasion aussi de revenir sur les belles réussites de la chaîne à péage, comme Les Sopranos ou Oz, mais aussi sur les ratés, bien plus souvent commerciaux qu'artistiques d'ailleurs, tels John from Cincinnati ou encore Tell Me You Love Me.
Première à Sérimania, une rencontre en dialogue croisé entre deux maîtres de l'espionnage, le français Éric Rochant, créateur de l'excellent Bureau des Légendes, et le britannique Hugo Blick, créateur entre autres de Black Heart Rising et The Honorable Woman, qui a valu un Golden Globe à Maggie Gyllenhaal. Ils étaient accompagnés par le journaliste de Télérama, Pierre Langlais. Ils ont beaucoup parlé durant cet entretien de vérité, de la nécessité d'authenticité pour écrire une histoire d'espionnage, et donc de mensonge, qui soit réaliste. Dans ce cadre, la réalité géopolitique actuelle ou historique n'est pas pour Hugo Blick à prendre à la légère. Il commence par un travail presque journalistique et réécrit ensuite le tout pour en faire un scénario. Pour Éric Rochant, fortement inspiré par John le Carré et le film Notorious d'Hitchcock, il est essentiel de se sentir comme à l'intérieur de la scène, intégré dans l'histoire lorsqu'on la découvre. Comprendre aussi les motivations d'un personnage et utiliser la fiction pour explorer des thèmes historiques et en trouver la résolution semble être motivant pour les deux auteurs.
They suit the genre very well. The exploration of character in disguise. So the spy genre suits something which I think is fundamental to character exploration. And that character exploration is, I think there is no reason to pursue a character unless there is a fundamental flaw within that character, within that person. It seems to be the sort of dramatic purpose of engagement, is there is a flaw within the story, within the person that personifies the story. And therefore, a secret is a really interesting flaw. The Honorable Woman, for me, was the sort of the sophomore project on secrecy. And I went on to do another one, Black Earth Rising, which is a further exploration of what secrecy means. The Honorable Woman was about how secrets, if you hold them, possess you. So you have to get rid of them. It's about controlling secrets in The Honorable Woman. Who controls your secret? And if they do, how will you defeat it? And in defeating it, will you become a whole person? For my story with The Honorable Woman, because it was in the Palestinian and Israeli conflict, the idea of being whole or becoming whole probably wasn't the destination, but the idea of becoming more honest and appreciative of division probably was. But we could only begin that exploration for this story with a secret.
I've been told once that intelligence business is about trying to know what a state doesn't want you to know, trying to find what they want, what are their goals, and what are their secret goals. This is what intelligence is about, just trying to know secrets. And to know secrets, you have to hide yourself, you have to wear a mask. And so these guys, intelligence officers, they do what we like to do when we are kids. They like to, they disguise themselves, they wear masks, they lie, they pretend to be somebody else. It's really like our kids' games. So I think that it's fascinating to know that people who are adults are very serious people who do very serious things. Their job is just like to play. So this is the first thing that is fascinating about this world. The other thing is that when somebody lies to somebody else, it creates fiction, because it creates a lot of troubles. And lying, it's like cheating, it's like seducing. All these behaviors are very interesting for fiction, for narratives.
La veille avait lieu une rencontre entre Alex Berger, le producteur du Bureau des Légendes, et Bruno Fulini, l'auteur d'un livre décryptant la série et spécialiste des secrets d'État. Le producteur nous disait combien Éric Rochant avait comme ligne de conduite la précision factuelle et la nécessité de rester plausible. L'équipe d'écriture comporte jusqu'à 10 auteurs. C'est dire si son travail de showrunner, sur une série demandant tant d'authenticité, est prenant. On comprend mieux pourquoi, pour Éric Rochant, l'écriture et la création d'une série semblent être un exercice anxiogène. Arriver à tourner 500 minutes utiles et qualitatives de films par an est effectivement un exploit qu'il renouvelle depuis plusieurs saisons.
Enfin, une rencontre avec Uma Thurman dans le cadre de la présentation de sa nouvelle série Chamber s'était organisée. Sa belle et longue carrière cinématographique, ses collaborations avec Quentin Tarantino, ses participations aux séries Smash et The Slap ont bien entendu été évoquées lors de cet entretien animé par Olivier Joyard. Uma Thurman qui évoque en quelques mots Chambers.
This is so scary, as we talked about earlier, but I think there's a lot of personality in the show that is atypical, and there's a lot of sort of female energy in it, and I think there's a lot of heart, you know, at the same time as it's finding its path towards entertainment.
C'est la fin de ce podcast à Red Carpet. On se retrouve dès demain pour la suite et la presque fin de nos aventures à Sérimania, dixième du nom.
Les podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries.